16h40 à Boulevard Ségravel dans le retour. Les sénateurs d'Ottawa, nos sénateurs d'Ottawa qui ont fait une annonce particulière dans les dernières heures. Ils ont rappelé de leur club-école les Tyler Boucher, Hunter Shepherd, Jorian Donovan, Oscar Peterson, Xavier Bourgault, Thomas Amara, Keen Washkerak et Scott Harrington. Vous les connaissez pas? Nous non plus. Ce que ça laisse présager, et là, il y a des journalistes à Montréal qui se posent la question, c'est une game de clown qu'on fait contre les sénateurs samedi soir puis qu'on habille à peu près n'importe qui.
Parce qu'on est dans le processus où en match préparatoire, tu coupes du monde. T'es pas censé en rappeler. Fait que du monde qu'il y avait sur la glace hier, t'es censé faire des choix. Si t'en ramènes d'autres, puis il reste un seul match préparatoire pour le Canadien, c'est effectivement celui d'en fin de semaine à Ottawa où clairement, il y a des choses qui devront se régler sur la glace ou pas.
Je pense que les sénateurs ont un autre match d'ici là, jeudi face aux Blues, si je ne m'abuse, à vérifier sous toute réserve. Mais c'est une drôle de façon de poursuivre la rivalité. Alors que...
Ouais, contre les Blues, effectivement.
Oui, hein, c'est ça. Donc, on verra si ça, c'est l'alignement pour les Blues ou si c'est l'alignement pour le Canadien. Le Canadien qui a reproché sans gêne aux sénateurs d'avoir habillé le Gaune justement pour que la foire pogne. Et elle a pogné hier, la foire au centre Vidéotron. Résultat, il y a deux joueurs des sénateurs qui ont été mis à l'amende. C'est le cas de Nick Cousins pour son geste salaud à l'endroit de Ivan Demidov. Et même chose pour la charge à fond de train à ras-la-bande de Aiden Hutchin sur Alex Newhook. Des amendes de 2 000 $. Ça, c'est l'équivalent de si on vous demande un sou noir pour un assaut criminel en pleine rue. Bref, ça fait pas un gros pli sur la différence et le portefeuille. Des joueurs des sénateurs d'Ottawa sur les routes, Audrey.
Quand même pas mal de trucs à vous mentionner, commencer par la capitale, direction ouest. Fin de l'accès provenant du boulevard des Chutes, c'est partiellement entravé. Un véhicule lourd en panne au moment où on se parle, ce qui fait que ça congestionne quand même pas mal. Si je regarde la carte dans le coin de Val-Bélair, en fait, entre Val-Bélair et Shannon, dans le coin de la base militaire, là, c'est pas mal difficile, direction nord surtout. Donc, Henri IV-Nord qui se transforme en route de la Bravo, pardon. Si vous êtes sur la route de Fossambeau en ce moment, entre route des Érables et de la Jean-Cartier, c'est au ralenti. Capitale, direction est, ça se passe surtout entre Henri IV et Laurentienne. Direction ouest, ça va se passer entre Bourg-Royal et Laurentienne. Des problèmes sur Henri IV sud à partir de la capitale jusqu'à l'entrée des ponts. Duplessis sud, c'est de Charest au pont que ça se passe. Charest direction est, c'est surtout à la hauteur d'Henri IV là, qu'il y a des problèmes au moment où on se parle. Boulevard Laurier, c'est bordélique entre Bourassa et les ponts. Ça, c'est vraiment les grandes artères là, parce que c'est compliqué pas mal la grandeur du réseau, si je tenais en ce moment. Si on s'en va sur la rive sud, la 20 direction ouest, c'est entre la route du président Kennedy et Chemin des Îles. D'ailleurs, semble y avoir un accident ou un incident, du moins direction ouest, là, juste après Chemin des Îles, ce qui crée ce ralentissement-là. Quoi que ce soit d'autre, c'est le 418-971-102 par texto.
Il y a du trafic, effectivement. Ça lui a pris une heure intégrer le studio pour nous accompagner alors qu'il partait, je crois, du coin de la rue ici. Là. Notre vulgarisateur d'actualité préféré, Farnel Morissette. Salut, Farnel.
Salut, comment ça va?
Ça va bien, toi?
Ça va très bien, content d'être ici. Même si ça m'a pris une heure pour me rendre, ça vaut la peine.
Farnel, tu voulais revenir sur, on va appeler ça les cérémonies d'avant-match du discours...
C'est une bonne façon de le dire.
Ouais, du discours inaugural du premier ministre François Legault. C'est un peu du folklore, hein? C'est le bout monarchique. Là, y a les gens du PQ qui sortent, il y a les gens de Québec solidaire qui sortent parce qu'ils veulent pas rien avoir à faire avec la reine et ainsi de suite. Ça t'a fait réfléchir, entre autres, au temps où t'as vécu à Londres.
Ouais, ben parce que je pense que, tu sais, malgré qu'on soit d'accord, désaccord avec le geste, c'est un bon moment pour se rappeler tous comment notre système politique fonctionne. Uh-huh. Parce que la lieutenante-gouverneure est la représentante du roi et oui, avec toute l'absurdité de la chose que je pense qu'on reconnaît tous.
Le monsieur barbu avec un bâton, là, il y a comme plein d'affaires bizarres, ouais.
Ouais, alors, tu sais, j'ai eu la chance hier d'être dans la tribune du Salon Rouge. Alors, j'étais là quand tous les députés, membres de Québec solidaire, du Parti québécois, se sont levés pour sortir juste avant l'entrée de Mme Janotte, qui est la gouverneure. Et c'est drôle parce que moi, parce que j'ai vécu à Londres, puis je vivais pas loin du Parlement de Westminster, j'y allais souvent, tu sais, moi, ça m'a pas surpris, ça m'a pas choqué, mais il y a eu comme pas un gros malaise, là, mais comme une espèce de « Ah, il y a bien des gens qui ont trouvé ça vraiment que ça manquait de décorum, que c'était vraiment pas correct. »
Ça se fait pas.
Pourquoi tu dis que toi, ça te dérangeait pas, t'étais à l'aise avec ça? Parce que si le fameux principe de pas appuyer la monarchie, ça passe mieux du côté britannique ou...
C'est que Et puis là, là, je veux dire, là, le malaise n'était pas gros. Là. Je vois personne qui se déchire la chemise
non,
aujourd'hui,
non,
mais il y a quand même...
Québec solidaire puis le PQ ne sont pas si nombreux.
Puis on n'est pas surpris de leur position, non, c'est exact. Très clair. Qu'ils sont. Mais c'est parce que, je veux dire, même en Angleterre, je dirais même particulièrement en Angleterre, parmi les députés, les membres du Parlement là-bas, même parmi ceux qui sont ouvertement monarchistes, là, des gens qui sont favorables à la monarchie, il y a un grand sentiment, une grande culture à l'intérieur de leur réalité parlementaire d'irrévérence, de moquerie de la monarchie.
Ah ouais.
Et ça, moi, la première fois, ça m'avait surpris jusqu'à ce que je pense, puis je m'explique là-dessus, c'est que en Angleterre, au Royaume-Uni, il y a une longue historique ils ont même eu des guerres civiles entre les parlementaires et les monarchistes à travers l'histoire. À ce jour, le roi est barré de la Chambre des communes. Il n'a pas le droit de rentrer. Les parlementaires, en tant que parlementaires, dans leur rôle de parlementaire, ne doivent aucune obéissance au roi. Et ça, c'est le résultat d'un long, long développement démocratique d'autonomie parlementaire.
C'est quand même un paradoxe, fondamentalement, d'avoir le roi puis la monarchie d'un bord, puis un parlement élu démocratiquement
Exactement.
De l'autre bord.
Ouais. Alors, ça veut dire qu'à Londres, les députés qui sont là, quand il y a le discours du trône, puis le discours du trône, c'est fait par le roi, ou la reine à l'époque, ou par le roi aujourd'hui, les députés sont invités. Puis pour y aller, il faut qu'ils sortent de leur chambre, descendent un petit corridor. Puis là, ils sont tous invités à rester dans la porte, vraiment tout coincés pendant qu'il y a le discours du trône, dans la haute chambre, qui est la House of Lords.
Peu la copie de ce qu'on a vu quand ici, le roi Charles est venu faire son tour pour Mark Carney.
Identique.
Parce qu'on fait que c'est le même processus.
À toute fin pratique, le même processus. Sauf que pendant qu'ils le font, de un, il y a beaucoup de députés qui disent « Non, je veux pas ». C'est pas parce que le roi m'appelle que moi je suis obligé d'y aller. Moi, je suis un parlementaire, j'ai aucune obligation d'y aller.
Est-ce que c'est une prise de position ou c'est juste...
C'est j'ai vu comme une certaine prise de position.
Parce qu'il y a des partis qui sont contre la monarchie. Ouais. On a essayé de faire tomber à plusieurs reprises la reine à une certaine époque. Là.
Oui, et c'est une prise de position, mais c'est vu comme une affirmation de l'autonomie parlementaire. C'est pas vu comme quelque chose qui est irrespectueux, qui est un bris du décorum. Même,
ou un enfantillage.
Pas un enfantillage, non. Ça rentre parfaitement dans la logique parlementaire, qui est que le Parlement est supposé être un contrepoids. Et historiquement, c'est battu très fort pour être un contrepoids contre le roi. Alors, il y a des parlementaires qui décident de pas y aller. Et de ceux qui y vont, l'espèce de marche qu'ils font dans le corridor, les médias adorent mettre les caméras là, parce que, par tradition, les parlementaires se moquent du roi en y allant. Ils disent « Ah, qu'il se trouve une vraie job, oh, il va perdre notre temps, qu'est-ce qu'il veut nous dire encore? » Et ça aussi, ça fait partie de la tradition. C'est aucunement vu comme quelque chose c'est pas un enfantillage, c'est une reconnaissance du rôle des parlementaires comme étant des gens qui travaillent pour leurs électeurs.
Indépendants.
Et qui ont une longue histoire de se battre pour défendre cette indépendance-là. Et c'est pas de la trahison, c'est pas de la lèse-majesté, ça rentre dans leur historique. Puis il ne faut pas oublier que cette historique-là, on l'a importée chez nous car on a adopté exactement le même système parlementaire. Alors, ce qu'on a vu hier, je ne le vois pas comme un bris de décorum. Je le vois comme, oui, c'est un choix qui a été fait selon des lignes partisanes, selon des lignes idéologiques que je comprends, mais je ne pense pas que c'était quelque chose qu'on devrait voir comme étant de l'enfantillage ou quoi que ce soit. C'est une continuation de la même tradition.
Fait que si depuis aussi longtemps, ils n'ont toujours pas réussi à s'affranchir de la monarchie, ce n'est pas le poids du PQ et de Québec solidaire qui va nous permettre de s'affranchir non plus. C'est ça que je comprends.
Ben, je veux dire, il faut quand même reconnaître, en Angleterre, il y a des histoires, il y a des guerres civiles, il y a des têtes qui ont roulé pour ça. Je ne nous souhaite pas ça
littéralement,
ici.
Littéralement.
Littéralement, oui, au sens très, très clair du mot. Je ne vous souhaite pas ça ici. Mais, tu sais, il y a un mouvement anti-monarchiste qui appelle le mouvement républicain. Puis là, ça n'a rien à voir avec le Parti républicain aux États-Unis, au Royaume-Uni, qui veut aussi s'affranchir de cette même chose-là. Mais c'est que, essentiellement, tant au Royaume-Uni qu'ici, je pense, oui, on trouve tout que la monarchie est un peu drôle, un peu absurde, un peu ridicule.
Mais on n'a pas sa place. Ça n'a pas d'impact, en fait, surtout.
Mais c'est ça, c'est que ça fait mal à personne. Alors,
ça fait
même
juste
si
c'est cher.
C'est ça. Puis même beaucoup de ces dépenses-là, il faudrait les faire par d'autres services diplomatiques si on ne l'avait pas de toute façon. Alors, c'est plus, bon, OK, on trouve tout que c'est un petit peu niaiseux, c'est un petit peu absurde, mais ça fait pas vraiment mal à personne. Alors, on va faire des gestes symboliques, puis on passera à autre chose.
Farnell, étant donné que tu as vécu là-bas, tu vas peut-être m'aider à percer un mystère que j'ai encore de la misère à saisir. C'est ceux qui sont pour la monarchie dans une démocratie. L'affection qu'ils ont pour la famille royale, c'est-tu culturel? C'est-tu historique? C'est-tu de la tradition? C'est-tu juste pour pouvoir faire du patinage? Ça vient d'où? Parce qu'il me semble que t'es un ou t'es l'autre. L'Angleterre, c'est les deux. Puis j'ai toujours trouvé ça fascinant et inexplicable que des gens qui se disent démocrate au sens d'être pour la démocratie.
Dans une société occidentale.
Se prennent d'affection pour un roi, une reine, un prince et ainsi de suite. Je la poigne pas.
Ben, il y a un élément d'affection, mais tu sais, ça, je pense que c'est plus émotionnel. Mais je pense que, d'emblée, je veux dire, moi, je ne suis pas un monarchiste. Je pense pas qu'on devrait avoir de monarchie, mais bon, on l'a. Mais je veux faire justice aux gens qui veulent ou qui soutiennent ce système-là parce qu'ils ont un argumentaire qui est pas complètement fou. Je l'adopte pas, mais ça vaut la peine de le présenter correctement.
Exactement. Ouais, ouais.
C'est que la monarchie offre une stabilité historique qui est rare dans les républiques. Une république, c'est une démocratie qui n'a pas de monarchie. C'est une démocratie où l'autorité émane du peuple directement. Nous ne sommes pas une république, on est une monarchie. La stabilité que ça amène, c'est que ça donne une espèce de frein d'urgence. Ça répond à la question qui a le mot final. Et le mot final, il appartient à une personne, à un être humain qui peut parler. Alors, si jamais on arrive à une situation où on a un gouvernement qui dérape, des gens qui commencent à s'assassiner.
Ça arrive jamais, ça, des gouvernements.
Non, voyons
qui
donc, ça arrive pas. mais après, tu sais, parlons par exemple de ce qui se passe au sud des États-Unis, où il y a présentement, il y a des gens qui sont certainement en train de réinterpréter leur constitution, réinterpréter les règles fondamentaux. Et tout ce qui va arriver, c'est que, bon, ben, éventuellement, il va y avoir une chicane entre le président, la Cour suprême et le Congrès. Et comme ils ont tous des pouvoirs en théorie ex aequo, s'il n'y a pas un consensus, ils vont soit être obligés de se plier à un de ces trois pouvoirs-là ou se battre. Et quand les sociétés commencent à se battre, ils deviennent très instables. Nous, ce qu'on a, c'est que parce que l'autorité émane du roi, aussi ridicule que ce soit, puis encore une fois, je ne suis pas en train de dire que c'est un bon système, mais j'essaie de faire l'argumentaire pour, ça assure que si jamais on dérape totalement...
Qu'il y a
une grosse dérive, que là, les gens ne respectent plus les règles du jeu quand ils disent qu'ils sont en train de le faire, il y a quelqu'un qui peut dire non. C'est assez, c'est moi qui ai le mot final, puis c'est ça. Alors, le rôle du lieutenant-gouverneur, du gouverneur général, du roi, c'est d'être le frein d'urgence, c'est d'être la personne qui va seulement prendre parole si et quand tout le reste du système ne fonctionne pas, et c'est l'autorité finale, en théorie.
Si on avait comme premier ministre Donald Trump, puis qu'on trouve qu'il dérape complètement, ben on aurait la gouverneure générale qui pourrait mettre un stop à ces niaiseries-là.
En théorie, oui. Et puis, je veux dire, c'est pas strictement théorique. Si on se souvient, par exemple, Stephen Harper, qui avait fait une prorogation du Parlement qui était très controversée.
Oui.
Après, là, on remonte à peu près 10-12 ans, quand il y avait eu le début d'un gouvernement de coalition entre les libéraux, le NPD appuyé par le Bloc, dans les dernières années du gouvernement Harper.
Oui.
Et le gouvernement Harper est allé voir la gouverneure générale pour dire, avant que cette coalition-là puisse se former formellement, je vous demande de mettre pause sur le Parlement. Ça, il n'y avait pas de précédent là-dessus. Il n'y avait pas de règle claire. En théorie, on ne savait pas. Je veux dire, on s'est replié sur la théorie qui était le mot final appartient à la gouverneure générale en tant que représentante du roi. Et c'est elle qui a tranché. Et ça lui a pris plusieurs heures à trancher parce qu'il a fallu qu'elle consulte toutes sortes d'experts juridiques, toutes sortes d'experts constitutionnels pour savoir c'était quoi. Parce que, justement, on venait à une situation où tu avais un représentant qui avait un certain pouvoir qui disait « c'est A », Stephen Harper qui disait « je suis encore le premier ministre, j'ai le droit de fermer le Parlement ». Et il y avait l'aile parlementaire de l'opposition qui disait « nous sommes capables de former une coalition qui a la confiance de la Chambre, tandis que le premier ministre ne l'a pas ». Et là, on avait une confrontation potentielle, une crise constitutionnelle potentielle. Le fait qu'on ait la gouverneure générale pour trancher, ça a permis de régler l'impasse.
Farnell, je me posais...
J'aime pas ça, moi, comme frein d'urgence.
Là, encore une fois, je précise, je pense pas que ça devrait être ça notre système.
Mais moi, je trouve ça,
c'est à ça qui sert.
On fait de l'information.
Ouais, c'est ça.
La série de Queen, qui a été excessivement
populaire
sur Netflix.
The Crown.
Toutes mes excuses.
S'il te plaît, respecte ma monarchie.
J'avais regardé ça avec un certain intérêt, particulièrement la première saison, où on voyait une jeune reine représenter une vieille monarchie, échanger avec un vieux premier ministre qui lui montrait un petit peu les rouages de la politique et ainsi de suite. Puis je trouvais que cette relation-là entre Winston Churchill et la reine à l'époque, ça avait l'air d'être une belle relation. Puis je comprends que c'est romancé, que c'est...
Ça fait de la bonne télé, là, mais
ça fait de la bonne télé, mais quand même, ça, moi, ça m'a ouvert un peu mes horizons puis mes perspectives sur ça peut-tu avoir de l'allure, un espèce de régime à deux têtes comme ça, au-delà du levier d'urgence de les voir collaborer en temps de crise, lorsque le règne d'un est contesté, puis ainsi de suite, puis de voir que l'un peut devenir le mentor de l'autre dans certaines circonstances. J'ai vu du bon là-dedans, mais il n'y a pas de système parfait, ça on le sait à la
c'est
base.
C'est ça, il n'y a pas de système parfait. Notre système n'est pas parfait, le système aux États-Unis républicain n'est pas parfait non plus. Je veux dire, une bonne partie de se créer un système politique, c'est de faire le possible avec des compromis qui ne font pas l'affaire à tout le monde. Puis des fois, on arrive à des situations absurdes et ridicules à la première vue, mais quand tu grattes un peu, tu réalises, ouais, tu sais, c'est peut-être pas le meilleur système, mais...
Il y avait un fondement.
Il y a un fondement. Les gens qui ont développé ce système-là, ils n'étaient pas plus caves que nous. Là. C'était des gens qui faisaient face à des situations difficiles, qui ont essayé de trouver une façon d'avancer.
Fait qu'on n'a rien inventé, là, ici, là, en quittant quand c'est les affaires monarchiques, puis tout ça, ils le font en Angleterre. Et
c'est ça. Puis si ça choque pas les Anglais... Je pense pas que ça devrait nous choquer non plus.
On va passer à travers.
On va passer à travers. On va vivre une journée de plus. Là.
Farnell Morissette, merci beaucoup.
Merci, bonne journée.
Ça a été super le fun. Il est 16h55. Vous êtes à Boulevard. On fait une courte pause. Nous autres, on revient.
Pour joindre l'équipe de Gravel dans le...